Votre podcast avec Hello Bank Pro, la banque digitale spécialiste des indépendants qui propose toutes les solutions pour développer votre activité.
Aujourd'hui, on a plein de clients qui utilisent leur compte personnel à des fins professionnelles. Et alors, en cas de contrôle, qu'est-ce qui se passe quand on a les courses qu'on fait chez Leclerc à côté de la caméra qu'on a achetée ? C'est catastrophique.
Attention, c'est pas parce que vous êtes rigoureux et de bonne foi que vous allez pouvoir aller en contrôle fiscal en vous disant « c'est bon, il va rien se passer ». L'inspecteur des impôts, s'il cherche vraiment quelque chose pour vous redresser, il va trouver quelque chose en fait.
Pour qu'une dépense professionnelle soit admise sur la société, il faut qu'elle ait un intérêt professionnel. À partir du moment où ta dépense, elle a aucun lien avec ton activité, arrête de vouloir faire le forcing pour la baisser sur la boîte.
Un contrôle peut être déclenché à tout moment, ce qui veut dire qu'un entrepreneur qui tient très bien sa compta, qui fait toutes ses déclarations, peut tout de même avoir un contrôle fiscal. Et ça, il faut le garder en tête. On va pas se faire forcément contrôler parce qu'on a fait quelque chose de mal.
Le podcast des indépendants sur BFM Business, présenté par Ludovic Badeau.
Très heureux de vous retrouver dans ce nouvel épisode du podcast des indépendants sur BFM Business, évidemment. Et aujourd'hui, on va parler comptabilité, gestion, fiscalité. Alors, n'ayez pas peur, ça va très bien se passer parce que ce sont des sujets essentiels, car certaines erreurs peuvent coûter cher. Et pour en parler, comme à chaque fois, quatre invités que je laisse Ombline vous présenter.
Première invitée, Karine Chetta, responsable du marché professionnel chez Hello Bank Pro, partenaire du podcast des indépendants depuis ses débuts. Fille d'entrepreneur, Karine a grandi avec le business et connaît très concrètement les enjeux des indépendants. Gestion du quotidien, pression financière, besoin de simplicité et de réactivité. C'est cette proximité qui l'a amenée à concevoir une offre pensée pour ceux qui se lancent. Simple, efficace et complète. Hello Bank Pro permet de centraliser au même endroit tout ce dont un indépendant a besoin. Le bancaire, la gestion et la facturation électronique pour permettre à chaque indépendant de gagner du temps, de sécuriser son activité et de se concentrer sur son développement au quotidien. Deuxième invité, Thomas Morel, cofondateur du cabinet d'experts comptables MNC basé à Marseille. Thomas s'est fait connaître en vulgarisant des sujets souvent complexes sur Instagram. Ces sujets, statut juridique, rémunération, limite de l'auto-entreprise ou encore contrôle fiscaux. Son cabinet accompagne aujourd'hui plus de 250 entrepreneurs en centralisant conseil, comptabilité, fiscalité et gestion de patrimoine. Pour Thomas, beaucoup d'entrepreneurs excellent dans leur métier mais perdent chaque année des milliers d'euros faute d'anticipation fiscale et juridique. Troisième invité, Jonathan Cohen, expert comptable et multi-entrepreneur. Jonathan a fondé Acasi, plateforme qui automatise la gestion financière des indépendants et qui compte aujourd'hui plus de 2000 clients. Son approche, rendre accessibles des sujets souvent complexes en s'appuyant sur des outils digitaux pour clarifier les chiffres et améliorer la prise de décision. Quatrième invité, Didier Okpo, avocat fiscaliste, enseignant en droit fiscal et créateur de contenu sur les réseaux sociaux. Il s'est donné une mission, rendre la fiscalité plus compréhensible mais surtout plus juste. Concrètement, il intervient lorsque l'administration fiscale réclame des montants parfois disproportionnés à des dirigeants et des entrepreneurs. Son rôle, rééquilibrer le rapport de force, défendre le contribuable et, dans de nombreux cas, faire chuter les redressements.
Ravi de vous accueillir dans ce nouvel épisode du podcast des indépendants que j'aimerais commencer de manière très concrète. On a tendance, parfois, pas toujours, et surtout quand on prend de l'expérience, c'est quelque chose qu'on ne fait plus généralement, mais à confondre le chiffre d'affaires avec la rémunération finalement. Et donc, question très concrète, un indépendant qui fait 50 000 euros de chiffre d'affaires, combien il lui reste à la fin ? C'est quoi sa rémunération, Jonathan ?
Ça va dépendre de plusieurs caractéristiques. La première déjà, c'est quoi la forme sociale qui permet d'exercer ton activité ? C'est pas la même chose, 50 000 euros dans une SASU, dans une EURL ou en micro-entreprise.
Ouais, donc on voit déjà que c'est assez technique et c'est aussi propre à la France, mais si on devait donner... je ne sais pas, une moyenne, une indication.
Au régime des salariés, donc tu prends tes 50 000 et tu te la verses comme un salaire, comme si tu étais salarié sur un bulletin de paye, c'est globalement ce qui te coûte le plus cher en termes de coût social et d'impôt sur le revenu. 50 000 euros, tu peux garder, on va dire, 35% si tu es salarié, tu vois, globalement, à peu près, en enlevant tout le montant des cotisations sociales. À l'inverse, si tu prends le régime qui est le moins protecteur en termes de protection sociale, tu peux te retrouver à avoir à peu près 55% de ce montant-là. Tu vois un peu la différence entre les deux.
Ouais, donc ça veut dire qu'il faut quand même bien se renseigner effectivement sur les statuts.
Bah, chaque statut juridique a ses avantages et ses inconvénients et donc forcément viennent impacter ce qui te reste à la fin, ce qu'on appelle le net dans ta poche. T'as la forme juridique et t'as le statut social que tu as et d'ailleurs aussi t'as l'imposition. Est-ce que tu as l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés.
Si je commençais en soulignant qu'il peut y avoir une confusion des fois entre le pro et le perso, c'est parce que c'est aussi l'un des motifs de contrôle fiscal. Ce que tu me disais, Didier, c'est que souvent, il peut y avoir un contrôle fiscal parce qu'on détecte, par exemple, que c'est l'argent pro qui est utilisé pour le perso.
Oui, exactement. En fait, il arrive des situations où en fait, l'entrepreneur va encaisser sur son compte perso, des sommes qui sont normalement dues à l'entreprise ou alors à la société qu'il détient. Et ça, ça peut poser de sérieux problèmes parce que la première question que va se poser l'administration fiscale, c'est de savoir est-ce que ce chiffre d'affaires encaissé à titre personnel a été déclaré du côté de l'entreprise. Donc, est-ce qu'il y a de l'impôt sur les sociétés et autres qui ont été payés ? Oui, non. Ensuite, sur ce qui a été perçu directement sur le compte, l'administration fiscale va devoir le qualifier et le plus souvent, elle va considérer que ce sont des revenus distribués. Et donc, comme ce sont des revenus distribués, c'est comme, entre guillemets, des dividendes. Du coup, il y aura de l'impôt à payer dessus. Donc, on est imposé deux fois là-dessus. Et en sachant que lorsque ça intervient lors du contrôle fiscal, tu t'en doutes bien, il y a des pénalités.
Je vais poser la question autrement. Est-ce que ça veut dire, Didier, qu'il y a des indépendants, des entrepreneurs qui ont des mauvaises habitudes et qui utilisent trop le compte professionnel ?
Il y a des entrepreneurs qui ont de très mauvaises habitudes et qui ont tendance à déduire des charges qui n'en sont pas et qui vivent sur leur société. Oui, ça, c'est très courant. Mais il y en a aussi qui, sans faire exprès, c'est-à-dire vont penser que certaines dépenses sont des charges déductibles alors qu'elles ne le sont pas.
Exemple,
on prend le cas d'un influenceur qui va faire de la création de contenu en ligne. Bah, pour faire sa création de contenu, il a besoin parfois d'acheter des vêtements, il a besoin parfois d'acheter, s'il fait des recettes de cuisine, des ingrédients, s'il fait...
C'est des frais professionnels.
Pour les vêtements, non, vraisemblablement non. Il y a une jurisprudence qui est tombée il y a quelques mois de cela, où une influenceuse avait voulu déduire pas mal de dépenses de ce type-là, notamment des dépenses de lingerie, et l'administration fiscale a refusé la déduction de ces sommes-là, et le tribunal administratif a validé la position de l'administration fiscale. Ça veut bien dire que parfois, on peut être de bonne foi, penser que, effectivement, moi je suis influenceur, donc j'ai dû payer une caméra. Bon, la caméra, ça va passer. Mais les vêtements, par exemple, ça peut être compliqué, ça peut être un vrai sujet.
Tu parles d'influenceur, mais ça peut être un entrepreneur qui a des frais de représentation et qui considère que du coup, ça passe sur la boîte.
Frais de représentation que l'on pourrait considérer passer sur la boîte, mais qui, en cas de contrôle, tu verras, ça passera pas.
C'est-à-dire... Donc les vêtements, c'est non.
Les vêtements, c'est clairement non.
S'il y a aussi cette problématique parfois de confondre le pro et le perso, Thomas, c'est parce que finalement, les entrepreneurs ont du mal à bien se payer.
Très clairement, on le voit aujourd'hui, nous, on accompagne pas mal de dirigeants sur leur stratégie de rémunération et très peu ont réellement une vraie stratégie de rémunération. Comme le disait Jonathan, ça dépend de plusieurs facteurs, notamment de la forme juridique, du statut social du dirigeant, et les implications peuvent aller du simple au double.
C'est hyper compliqué.
C'est très compliqué. Et il faut se faire accompagner pour avoir une vraie stratégie et qu'elle soit cohérente, surtout avec ses besoins. Typiquement, demain, j'ai une SAS, je suis considéré comme assimilé salarié, je me verse 1 000 euros, ça va coûter grosso modo 1 008 à ma société. À l'inverse, j'ai une SARL, je suis considéré comme travailleur non salarié, ça va lui coûter 1 400 euros. Et bien évidemment, il n'y a pas que ça à prendre en compte, parce qu'on peut se verser du salaire, on peut se verser des dividendes, il y a des possibilités, juste il faut savoir quoi faire et surtout comment le faire.
Est-ce qu'on peut dire que parfois les entrepreneurs négligent la question de la projection, la question de la comparaison des statuts pour bien comprendre en fait ce qui est possible de faire et quelle serait leur meilleure rémunération, quel serait le meilleur modèle pour être le mieux rémunéré possible ?
C'est difficile de trouver le meilleur modèle parce que concrètement, ça va dépendre des objectifs de l'entrepreneur, de sa situation, de son chiffre d'affaires, de son bénéfice. Dans les faits, ce qu'il faut regarder, c'est quel va être le besoin en termes de protection sociale pour l'entrepreneur ? Est-ce qu'il va avoir un besoin élevé ou non ? Et deuxièmement, quel va être son besoin en termes de revenus ? Est-ce qu'il a besoin de se payer mensuellement ? Est-ce qu'au contraire, il va avoir besoin de se verser uniquement un dividende une seule fois par an ? Il y a plusieurs possibilités, comme je le disais, et ça va dépendre avant tout de la situation et des objectifs.
Karine, chez Hello Bank Pro, je rappelle Hello Bank Pro qui est partenaire du podcast des indépendants, qui accompagne le podcast des indépendants depuis 4 saisons maintenant. Est-ce que tu vois souvent ce côté un peu confusion pro-perso, notamment à travers le compte bancaire ? Est-ce que ça existe ?
Oui, bien sûr, ça existe. Aujourd'hui, on a plein de clients qui utilisent leur compte personnel à des fins professionnelles aussi. Et alors, en cas de contrôle, qu'est-ce qui se passe quand on a les courses qu'on fait chez Leclerc à côté de la caméra qu'on a achetée à côté ? C'est catastrophique.
C'est catastrophique parce que du coup, l'administration fiscale retoque plus facilement ça ?
Ah mais complètement. Comment tu vas justifier derrière de chacun ? Imagine, tu dois chaque opération la justifier vis-à-vis de l'État sur ton compte personnel.
Surtout que, franchement, parlons franchement, en termes d'offres sur le marché pour avoir un compte professionnel assez facilement et pour séparer le pro du perso, c'est quand même pas très compliqué, ça coûte pas très cher.
Non.
Didier ?
Je voulais intervenir là-dessus parce que le problème que ça peut poser aussi d'un point de vue contentieux fiscal, c'est que normalement, quand l'administration vient pour faire une vérification de comptabilité, elle doit contrôler les comptes de l'entreprise. Mais si on s'est amusé à utiliser son compte perso, encaisser du chiffre d'affaires sur son compte perso ou utiliser son compte perso pour faire des charges, du coup, l'administration aura le droit d'aller contrôler ce compte perso et de le considérer comme un compte mixte au final, et du coup de regarder ce qui est arrivé dessus et autres. Et donc ça peut créer d'autres problèmes. En fait, si on veut vraiment séparer les activités, Mieux vaut avoir un compte perso d'un côté, un compte pro de l'autre.
Bien scinder le pro du perso. Et tu me disais d'ailleurs, c'est souvent avec aujourd'hui, on verra qu'il y a plus de contrôles hein, qui sont réalisés, notamment avec l'IA. Donc il y a des détections qui se font plus facilement du côté de l'administration fiscale. Et tu me disais souvent, c'est sur des petites choses que d'un coup on est détecté et que du coup ils vont creuser derrière. Et que si en plus on a tout mélangé, alors là c'est l'enfer.
C'est ça, c'est que de base, on va dire que c'est pas parce que j'ai utilisé une fois ma carte bancaire perso ou la carte de mon entreprise pour faire une dépense personnelle que j'aurai un contrôle fiscal qui va me tomber dessus. En revanche, si par ailleurs je ne suis pas à jour sur mes déclarations, notamment en matière de TVA, et que l'administration fiscale vient contrôler la société, eh bien tout ça, elle va le regarder.
Une déclaration de TVA qui n'est pas faite dans les temps auprès de l'administration fiscale, c'est une ligne rouge.
C'est clairement une ligne rouge. Il ne faut pas oublier que la TVA, c'est l'impôt qui rapporte le plus à l'État. Donc c'est clairement l'impôt qui est aussi le plus contrôlé. La moindre chose, en fait, lorsqu'on a une entreprise et que les obligations en matière de TVA ne sont pas respectées, très clairement, on est dans le viseur du fisc. Donc, il faut très vite régulariser sa situation. Ou alors, oui, ils vont venir. Bon, peut-être pas. Le temps du fisc n'est pas celui du contribuable. C'est-à-dire, parfois, on se dit « Oh, j'ai pas déclaré, c'était il y a 2 mois. » Et puis, il s'est rien passé. Mais en fait, l'administration attend souvent jusqu'au dernier moment, au bout de 2-3 ans, pour faire son contrôle. Et lorsqu'elle fait son contrôle, là, ça fait mal.
Quels sont les signaux, justement, pour ceux qui nous écoutent, quels sont les signaux qui font qu'on peut être sujet à un contrôle fiscal?
Des retards de déclaration, comme le disait Didier, c'est le signal majeur à mon sens. Et après, un contrôle peut être déclenché à tout moment. Ce qui veut dire qu'un entrepreneur qui tient très bien sa compta, qui fait toutes ses déclarations, peut tout de même avoir un contrôle fiscal. Et ça, il faut le garder en tête. On ne va pas se faire forcément contrôler parce qu'on a fait quelque chose de mal. On peut avoir une comptabilité qui est parfaite et pour autant se faire contrôler. Mais le retard des déclarations, à mon sens, c'est quand même le signal majeur.
Jonathan. Après, je vais quand même un peu tempérer. On accompagne aussi beaucoup de clients indépendants. Et ça arrive d'avoir des retards de déclaration de TVA. Après, en fait, aussi, tout dépend des montants en jeu. Tout dépend est-ce que c'est quelque chose qui est répété ou pas. Et effectivement, si. Pendant X années, il n'y a pas de déclaration de TVA qui sont produites. Bah, mécaniquement, en fait, ça met le entre guillemets le dossier dans le rouge vis-à-vis de l'administration fiscale. Mais voilà, on accompagne plus de 2000 clients indépendants. Ça arrive où on a qui nous rejoignent en disant « Ok, j'ai oublié, on doit faire des rattrapages de comptabilité, on a oublié des déclarations de TVA. » Ce n'est pas pour autant qu'ils sont contrôlés et sanctionnés. C'est juste une question, est-ce que c'est une habitude qui est répétée? Et généralement, en fait, c'est une désorganisation complète. C'est on commence par la TVA et après, en fait, on ne tient pas le reste, on mélange le pro et le perso, on n'a pas respecté les règles de taux de TVA. Enfin bref, c'est une situation un peu plus globale. Pour éviter de faire peur quand même, hein. C'est pas parce que vous avez fait une erreur ou pas une déclaration TVA que vous allez avoir un contrôle fiscal.
Oui, mais c'est de dire, en fait, si on ne fait pas les déclarations dans les temps de façon répétée, effectivement, il y a plus un risque d'être contrôlé. Ça nous met en position davantage d'être contrôlé. Et les pénalités, elles sont de 10%, 40% ou 80%, Didier?
Alors oui, dans le meilleur des cas, la pénalité elle est de 10%, c'est pour pénalité pour paiement tardif de l'impôt. Ah, vous auriez dû payer tant, finalement, vous avez payé moins, je vous mets une pénalité de 10%. En règle générale, ils ne la mettent pas, cette pénalité, en tout cas dans très peu de dossiers, je la vois. Celle qu'ils mettent le plus souvent, celle de 40% pour manquement délibéré, c'est-à-dire qu'on considère que le contribuable n'a pas payé l'impôt, mais que c'était volontaire, il a fait exprès. Il savait, il connaissait ses obligations fiscales et pourtant il s'en est affranchi. Et dans le pire des cas, pénalité un peu plus rare, mais qui arrive plus souvent que les 10%, honnêtement, c'est celle de 80% pour manœuvre frauduleuse. Donc là, c'est lorsque le contribuable a soit mis en place un mécanisme, des choses qui montrent qu'il a vraiment voulu...
Comme une entreprise basée à l'étranger.
Voilà, s'affranchir de l'impôt, ou alors il n'a pas du tout déclaré son activité. Là, on est dans le cadre d'une activité occulte. Donc là, oui, on peut avoir 80% de majoration. C'est un peu plus rare. Mais le plus souvent, c'est manquement délibéré, 40%.
Au-delà du contrôle fiscal, parce que c'est vrai que c'est des sujets qui intéressent les indépendants, ceux qui nous écoutent, hein, pour comprendre comment ça marche sur ces sujets-là, il y a aussi la question de l'anticipation, de la projection. Ça, Jonathan, quand on a préparé cette émission, tu m'as dit, c'est vraiment un point hyper important, c'est de savoir anticiper quels vont être nos besoins de trésorerie à court ou moyen terme, typiquement.
Oui, t'en parlais au début, quand on touche 50 000 euros, qu'est-ce qui nous reste dans la poche? Et donc c'est ça l'anticipation, c'est dire ok, on a 50 000 euros qui tombent sur le compte bancaire professionnel. Donc déjà, on ne tape pas dedans sur le côté perso, on réfléchit. Et donc on anticipe combien on va devoir payer en termes de TVA, en termes d'impôts, en termes de cotisations sociales, par rapport à sa forme juridique, par rapport à sa protection sociale, et par rapport à toutes les dépenses qu'on va avoir. Et donc le fait d'anticiper ce qui nous reste à la fin en termes de cash, et du coup ça permet de mettre en place des stratégies patrimoniales qui peuvent être pertinentes, c'est la clé d'une bonne gestion, même quand on est indépendant, par définition.
Ce que j'ai appris en préparant cette émission, c'est qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui ne sont même pas au courant qu'ils doivent payer de la TVA.
C'est ça, très clairement, il y a des entrepreneurs qui vont être tellement focus dans leur business et dans leur croissance qu'ils vont oublier les petites obligations réglementaires françaises, dont la TVA. Par exemple, on peut être en franchise en base de TVA pour une activité de prestation de service, donc ne pas devoir collecter ni déduire de TVA, jusqu'à hauteur de 37 500 euros de chiffre d'affaires. Tant qu'on est en dessous, pas de souci, pas de TVA. Par contre, dès lors qu'on le dépasse, on doit être en capacité de collecter cette TVA, ce qui veut dire qu'on doit potentiellement facturer 20% de plus à nos clients et la reverser à terme à l'État. Et ça, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui l'oublient, et c'est un oubli qui peut vite coûter cher.
Alors là, je tombe un peu des nues. Il y a beaucoup d'entrepreneurs qui oublient vraiment de payer leur TVA, qui n'ont pas conscience qu'ils ont dépassé les plafonds.
Alors, Didier, la fiscalité, c'est loin d'être facile. Et en fait, c'est très compliqué. Même si on parle d'auto-entreprise et de système qui, soi-disant, permet de créer une entreprise rapidement et la gérer facilement, en réalité, c'est l'usine à gaz. C'est-à-dire qu'il y a tellement d'obligations, il y a tellement de choses qu'on peut oublier qu'à la fin, la TVA, en tout cas, c'est le pire parce que c'est ce sur quoi l'administration fiscale va mettre son focus et c'est ce sur quoi les entrepreneurs, eux, vont se dire « Bon, bah, vu qu'au début de l'année, je ne devais pas payer de la TVA, pourquoi je devrais en payer en fin d'année ?»
Et comment ça se passe dans ce cas-là? Je suis à 37 500 euros, j'oublie de demander un numéro de TVA et donc de payer la TVA. Comment ça se passe ensuite?
Si le chiffre d'affaires s'est arrêté à 37 500 euros au titre de l'année, il n'y a pas de souci, il n'y avait pas de TVA. Par contre, pour tout ce qui est au-dessus des 37 500, là, il y aura de la TVA. Donc, si on n'en a pas facturé, on va considérer qu'elle est dedans. Imaginons qu'à la fin, j'ai 100 000 euros de CA, je fais 100 000 moins 37 500, puisque les 37 500, ils sont en franchise de TVA. Eh bien, ce qui va rester, il y aura de la TVA dedans qui devra être reversée au fisc.
On ne peut pas le facturer ensuite au client.
On peut régulariser. Mmh. Souvent, quand les clients sont des entreprises, elles ne payent pas la TVA. La TVA, c'est un impôt qui, de base, est fait pour peser sur le consommateur final. Donc, les entreprises, elles s'en fichent de payer de la TVA. Donc, quand ma clientèle, ce n'est que des entreprises, je peux régulariser, leur envoyer des factures rectificatives, elles vont payer la TVA. Mais si c'est des particuliers, vous imaginez un peu, vous avez payé de la TVA et ensuite, vous avez payé, pardon, une prestation de service et ensuite, on vient vous voir, vous dire, en fait, il y a 20% en plus. Bah non, vous n'allez pas vouloir.
À la décharge des entrepreneurs, c'est vrai que les règles, elles évoluent beaucoup. Elles évoluent très vite et on voit aussi la complexité de ces sujets, des formes d'entreprise, des règles, Jonathan.
Effectivement, il y a pas mal de clients qui peuvent avoir des oublis de TVA ou des choses comme ça. Très souvent, ce qu'on constate, c'est qu'en fait, ils n'étaient pas accompagnés. En fait, ils n'ont pas pris d'experts comptables. Il y a 22 000 experts comptables en France. Je ne représente pas l'ordre des experts comptables, mais effectivement, cette profession-là existe pour permettre à des clients entrepreneurs, à des clients indépendants, de respecter toutes les obligations comptables, fiscales
et légales. Très souvent, ceux qui sont contrôlés n'ont pas d'experts comptables, donc.
En tout cas, dans le non-respect des règles, et on parlait de la TVA et des dépassements, très souvent, c'est ce qui se passe. En fait, c'est des gens qui ont voulu faire tout seul pendant un moment. Et en fait, à un moment donné, ils se rendent compte que ça ne marche plus directement. Et donc, le fait de déléguer cette partie-là, tout le monde, enfin, tous les entrepreneurs ne sont pas faits pour être fiscalistes, experts comptables ou gestionnaires de patrimoine. En fait, il faut accepter de se faire entourer, se concentrer sur son cœur de métier. Donc, c'est toujours, ça peut être compliqué à entendre. On a tendance à vouloir tout faire tout seul. Mais en fait, il y a des professions qui sont là justement pour permettre de suivre toutes les évolutions législatives. Et on a de la chance en France, on va dire. Ça change tout le temps. Alors, on peut voir la chance ou la malchance, hein, mais ça change tout le temps, plusieurs fois par an.
C'est impossible
pour un indépendant de suivre le rythme législatif.
Et ce qui va créer du cadre aussi, c'est la facturation électronique finalement. Comment ça va se passer la facturation électronique pour les indépendants?
Alors très concrètement pour les indépendants, ce qui va se passer à partir du 1er septembre 2026, c'est qu'ils vont recevoir les factures de grandes entreprises et d'entreprises de taille intermédiaire directement sur une plateforme agréée. On parlait de la fraude à la TVA tout à l'heure. Eh bien maintenant, l'État va pouvoir vérifier en temps réel l'ensemble de la TVA collecté par l'ensemble des entreprises, grandes entreprises et ETI. À partir du 1er septembre 2027, ce qui se passera, c'est que toutes les entreprises, qu'elles soient micro ou pas, devront effectivement passer par des plateformes agréées pour aussi émettre une facture électronique. L'idée, c'est quoi? C'est qu'on ne pourra plus faire de facture en PDF. Ça, c'est une réalité. À la fin de l'année 2026, là, quand je vais faire mon bilan, si je ne suis pas sur une plateforme agréée, comment je vais récupérer les factures? Déjà, première question. Parce que je vais aller sur cette plateforme agréée pour les récupérer. Et donc, à partir du 1er septembre 2027, il va falloir que j'ai mon propre outil pour émettre les factures sous ce format-là. On aura tous le même format. Donc, ça va quand même simplifier largement la vie des indépendants. Et donc, pour pouvoir récupérer tout ça, l'avantage, c'est que les banques, les outils de gestion, tous vont proposer dans les faits. Donc, pas d'inquiétude, on n'est pas obligé d'aller faire une étude de marché sur les 150
sociétés. Oui, on a quand même l'embarras du
société,
choix.
Ouais. Voilà.
On aura l'embarras du choix. Ça veut dire qu'il n'y aura plus ces histoires de non-déclaration de TVA, du coup, enfin, vu que tout va être cadré avec la facturation électronique, Didier?
En tout cas, il y aura toujours des histoires de non-déclaration. Tous les ans, on a des obligations déclaratives, on doit déclarer nos revenus. Ouais. Il y a des sommes qui apparaissent automatiquement dans nos déclarations de revenus. Ce n'est pas pour autant que les contribuables les déclarent toutes ces sommes. Ouais. Je pense aux revenus Airbnb. Mmh. On aura toujours des petits filous qui vont chercher à s'affranchir en se disant que bon bah voilà, peut-être que je serai pas vu et pas pris. Donc il y aura toujours des déclarations, mais par contre ça sera beaucoup plus simple pour l'administration fiscale d'effectuer son contrôle et de vérifier que voilà, la facture qui est transmise n'est pas un faux ou que le montant de la TVA qui a été collecté par une entreprise. Donc ça sera plus simple.
Ouais,
on parlait d'anticipation. L'anticipation, c'est vraiment le déjà à la base aller voir un comptable pour savoir sous quel statut, en fonction de mes objectifs personnels, je dois créer mon entreprise, c'est déjà une première chose. La deuxième chose, c'est effectivement de se dire que à long terme, quelle stratégie j'ai. Et l'avantage de la plateforme Agré, c'est que souvent, il y a des outils de gestion à côté. Donc, je vais avoir mon chiffre d'affaires. Si je le dépasse, je vais avoir une alerte. Mon client qui ne m'a pas payé, bah, je vais avoir une alerte. Tiens, tel client ne m'a pas payé.
Ça crée un cadre.
Ça crée un cadre et ça va aider, in fine, les entrepreneurs qui sont un peu parfois border sur la partie comptabilité à avoir toutes ces alertes et à pouvoir les gérer.
C'est
une contrainte, voilà. C'est une contrainte au démarrage, mais in fine, ça va vraiment aider au quotidien.
L'objectif de tout entrepreneur, c'est aussi quand même d'optimiser ses revenus, de payer le moins de fiscalité possible. Et pour ça, très souvent, on entend parler de holding. Thomas.
La holding, c'est un petit peu le graal des entrepreneurs aujourd'hui. Concrètement, ça les fait rêver. C'est l'outil miracle pour payer le moins d'impôts possible. Sauf qu'en réalité, déjà, premièrement, ce qu'il faut comprendre, c'est que la holding, ce n'est pas forcément intéressant pour tout type d'entrepreneur. Pour que ce soit réellement intéressant, bah, il faut avoir un bénéfice non exploité qui va être à réinvestir. Et typiquement, l'avantage d'une holding, ça va être ce fameux régime MERFI, dont beaucoup parlent, qui nous permet d'être exonérés à hauteur de 95% sur les dividendes remontés. De donner un exemple très bête. Aujourd'hui, je suis entrepreneur. J'ai une société, j'ai fait 100 000 euros de bénéfices. Sur ces 100 000 euros, je vais prendre 50 000 pour ma rémunération. Il va donc rester 50 000 euros de bénéfices non utilisés dans ma société. Si j'en ai pas besoin à titre personnel, c'est dommage de les laisser dormir sur mon compte bancaire. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais créer une holding au-dessus qui va prendre possession de ma société opérationnelle et je vais faire remonter des dividendes dans cette société holding. Je vais pouvoir bénéficier d'un régime de faveur. Typiquement, si ces 50 000, j'avais voulu me les verser à titre personnel, j'aurais dû payer la flat tax dessus de 31,4. Donc grosso modo, sur 50 000, peut-être qu'il m'en serait resté 30 000.
En gros, il te reste les 50 000 et tu ne payes pas d'impôt dessus, quoi.
C'est ça,
grosso modo. Mais est-ce que tu peux l'utiliser comme de l'argent personnel ?
C'est pas comme de l'argent personnel, du coup, ça doit rester dans le cadre du professionnel. Donc on peut l'utiliser pour investir en bourse, en crypto-monnaie, dans de l'immobilier ou encore pour créer d'autres sociétés.
Oui, donc ça permet en fait de faire remonter de la rémunération sans que ce soit vraiment utilisé comme rémunération.
C'est pas vraiment de la rémunération, justement, c'est un outil pour faire grossir son patrimoine, mais ça reste dans le cadre du professionnel.
Et tu disais que c'est largement surévalué, la holding, que finalement, c'est un peu surcoté.
Y a beaucoup d'entrepreneurs qui veulent avoir une holding, mais en réalité, ils n'auraient pas de bénéfice à réinvestir. Si l'objectif, c'est de créer une holding pour faire remonter 10 000 euros, quel est le sens ? Je vais me retrouver à payer des frais juridiques et comptables qui vont complètement effacer le gain fiscal d'une holding. Donc, en réalité, il faut avoir un objectif à travers cette holding-là, plutôt que simplement dire à ses collègues « j'ai une holding ».
Didier ?
Juste pour rebondir là-dessus, je suis totalement d'accord et je veux juste alerter les personnes qui ont parfois ces idées folles de « je vais faire ma holding ou ma société à l'étranger » en me disant que bah, voilà, puisque ma société est en Lituanie, aux Émirats ou alors une LLC aux États-Unis, bah, je n'aurai pas d'impôts à payer. En fait, tant que vous vivez en France, vous avez des impôts à payer ici. On n'optimise pas en échappant à l'impôt en France, en fait. On peut optimiser sa situation, donc faire en sorte de payer moins d'impôts.
Oui, parce qu'il y a un mythe comme ça, Didier, qui consiste à penser qu'en montant une boîte à l'étranger tout en vivant en France, c'est possible.
Alors, il y en a qui pensent que... Alors, on a tout à fait le droit d'avoir une boîte à l'étranger. Ça, on peut être en France et avoir le droit de créer une société partout dans le monde. Par contre, la question qui va se poser, c'est l'argent que va gagner cette société, où est-ce qu'il va être imposable ? Et si moi, je suis ici alors que ma société est au bout du monde, ben, il y a de fortes chances qu'en fait, cette société exerce son activité depuis la France, puisque je suis en France. Donc en fait, c'est à la France d'imposer la société qu'à l'étranger. C'est là où ça ne sert à rien et qu'il y a pas mal de gens qui vendent des formations en la matière qui sont juste purement du mensonge aux gens. On leur dit, vous créez votre société à l'étranger, vous n'aurez pas d'impôts à payer en France. En fait, vous n'aurez pas d'impôts à payer en France tant que le fisc ne vient pas vous voir.
Jonathan ?
Je ne suis pas aussi convaincu qu'il faut forcément une holding pour placer de l'argent. C'est aussi important de dire, parce qu'on le dit beaucoup à nos clients qui viennent tête baissée, même si j'ai fait pas mal de vidéos sur le sujet, en disant qu'effectivement, la holding, c'était une des solutions pour optimiser au maximum, en tout cas, sa trésorerie disponible, ou en tout cas, encapsuler de l'argent dans une structure. Et du coup, ils sont convaincus que lorsqu'ils ont 50 000 euros sur leur compte bancaire, quand ils veulent le placer, en tout cas, compte bancaire professionnel, et qu'ils ne l'utilisent pas à titre personnel, leur seule solution pour échapper à l'impôt, c'est créer une holding. Déjà, avant, tu payes de l'impôt sur les sociétés. Donc, c'est-à-dire, du coup, il y a déjà de l'impôt qui a été payé. Et le fait de créer une holding ne te permet pas d'être exonéré de l'impôt sur les sociétés. Souvent, après une confusion, ils se disent, c'est
magique. Oui, tu ne sors pas l'argent comme ça.
C'est magique en disant, OK, si je crée une holding, c'est sûr, au moins, j'économise de l'impôt sur les sociétés. L'impôt sur les sociétés, il est de toute façon toujours payé par la société qui exerce l'activité. Et ils ont la possibilité de placer cette trésorerie aussi directement dans leur structure. Ils n'ont pas forcément besoin d'avoir une holding pour faire du placement patrimonial, entre guillemets. La logique de construction d'une holding, c'est quelque chose qui est vraiment sur du moyen long terme, généralement qui répond aussi à un besoin de structuration plus globale, de vouloir investir dans des SCI, de faire venir son mari, sa femme, ses enfants. Enfin, il y a une logique patrimoniale beaucoup plus large que seulement juste placer de la trésorerie. Je le dis parce qu'en fait, on a pas mal de clients qui arrivent peut-être baissés avec ce montage holding et qui ont ces fameux 50 000 ou 100 000 euros de disponibles, et on leur dit ça sert strictement à rien. En fait, là, juste tu veux ouvrir un compte titre et placer de l'argent, ouais. Tu peux le faire de ton activité.
Mais on est, voilà. Est-ce qu'on est là quand même sur des hauts niveaux de revenus, en tout cas de chiffre d'affaires quand même, quand on parle de holding, ça, on arrive à des niveaux importants ou pas,
Pas
Thomas?
Forcément, soit tout entrepreneur peut avoir une holding, il y a des raisons autres que simplement fiscales, il peut y avoir des raisons patrimoniales justement pour intégrer ses enfants, etc. D'accord. Mais en réalité, tout entrepreneur pourrait justifier avoir besoin d'une holding. Mais encore, faut-il réellement en avoir une utilité?
Est-ce qu'on peut apporter des éclairages très concrets à ceux qui nous écoutent? Parce qu'on disait tout à l'heure qu'on peut avoir des mauvaises habitudes, qu'on peut avoir des mauvais réflexes. Et il y a des choses, on ne sait même plus qu'on n'a pas le droit de les faire.
La première chose qu'il ne faut surtout pas faire, c'est faire des dépenses qui sont personnelles sur ta boîte. En fait, c'est le truc basique. Et les gens essayent de toujours être hyper imaginatifs. On a 2000 clients, tous les jours, ils nous posent des questions. Et si je peux faire passer ça, j'ai lu un texte de loi dans le Code général des impôts. La règle, elle est assez basique pour l'administration fiscale. Pour qu'une dépense professionnelle soit admise sur la société, il faut qu'elle ait un intérêt professionnel. C'est aussi simple que ça. Donc à partir du moment où ta dépense, elle n'a aucun lien avec ton activité, arrête de vouloir faire le forcing pour la passer sur la boîte.
Et on voit que bah, y a une part de subjectivité, parce que Didier, il y a des clients, t'as des clients qui disent « Ok, non mais je suis désolé, là c'est du pro ». Et l'administration fiscale qui dit « Non, monsieur, désolé, c'est du perso ».
C'est l'essentiel des débats que j'ai tous les jours avec l'administration fiscale. Hein. C'est-à-dire qu'on pense que la fiscalité, c'est blanc ou noir. En fait, c'est une zone grise. Et dans cette zone grise-là, l'administration fiscale aura toujours tendance, malheureusement, à considérer que les charges ne sont pas déductibles et le contribuable aura toujours tendance à considérer qu'elles le sont. Alors parfois, on a des sujets sur lesquels il y a certains avocats qui vont recommander de faire des rescrits, d'aller demander à l'administration fiscale ce qu'elle en pense. Le rescrit, en fait, c'est une procédure qui va permettre d'interroger l'administration fiscale en amont sur la bonne pratique, sur une pratique, et, pour lui demander exactement si...
consultation, quoi.
Une consultation. Est-ce que j'ai le droit de faire ça? Qu'est-ce que vous en pensez? Bon, le plus souvent... On sait ce qu'elle en pense, puisque elle va très rarement aller dans le sens du contribuable. Donc, je ne pense pas que cette procédure soit ce qu'il y a de mieux à mettre en place, honnêtement.
Autre chose à ne pas faire sur la partie gestion, sur la partie facturation, est-ce qu'il y a des choses à ne surtout pas faire?
Il y a beaucoup d'entrepreneurs qui ont tendance à rester beaucoup trop longtemps dans notre entreprise, alors que ce régime-là n'a plus aucun intérêt pour eux d'un point de vue fiscal et en termes de rémunération. Parce que typiquement, en auto-entreprise, tu ne peux pas déduire tes charges, notamment avec le régime micro. Tu as un abattement forfaitaire qui va être appliqué, qui va correspondre aux charges liées à ton activité. Sans réellement savoir quelles ont été toutes les charges.
Il reste dans ce régime parce que c'est le plus simple, en fait.
Très clairement, aujourd'hui, ce régime est extrêmement simple parce qu'il n'y a pas de comptabilité à tenir. Donc, mine de rien, bah, c'est un sacré avantage lorsqu'on est un entrepreneur. Mais l'inconvénient, c'est que ça se paye très souvent derrière parce qu'en réalité, on est très vite capé puisqu'on n'est pas poussé à investir dans notre business. Parce qu'on a cet abattement forfaitaire pour les charges. Mais concrètement, que j'investisse plus, que j'ai plus de charges, ça ne va rien m'apporter d'un point de vue gain fiscal en termes d'impôts et de cotisations.
Un auto-entrepreneur qui ne déclare pas son chiffre d'affaires, ça peut être très grave.
L'administration fiscale, ce n'est pas parce que vous êtes auto-entrepreneur qu'ils vont être plus cléments avec vous. Donc, il faut faire attention. Moi, j'ai un auto-entrepreneur qui a fini avec une peine d'emprisonnement quand même, parce qu'il n'a pas déclaré tout son chiffre d'affaires. Donc au début, on se dit, bon, il a juste déclaré une partie à l'URSSAF, une partie au fisc. Au final, l'un dans l'autre, ça veut dire qu'il déclarait tout, mais il ne déclarait pas tout aux bonnes administrations. Bah, le fisc est venu la contrôler, la redresser, ok. L'URSSAF est arrivé, a porté plainte contre lui pour travail dissimulé, parce que lorsqu'on ne déclare pas tout son chiffre d'affaires, c'est potentiellement du travail dissimulé, et c'est allé au pénal. Et en fait, pénalement, on a dû négocier avec le parquet une peine de prison de 6 mois. Avec sursis. Donc, l'auto-entreprise, certes, c'est simple, mais attention, parce que si on fait mal les choses, en fait, on se fera condamner comme un véritable fraudeur ou comme une personne qui était savant de la fiscalité.
Jonathan,
sur le choix de la forme sociale, se lancer, quand ils n'ont pas fait le choix de la micro-entreprise, d'auto-entreprise, et ils se disent « Ok, je veux me lancer dans la cour des grands », très souvent, on les voit partir tête baissée, foncer sur la SAS ou la SASU, parce que ça fait bien d'être en SAS quand on se lance en tant qu'indépendant. Alors que très souvent...
Comment ça fait bien?
Bah, n'entends que ça. Tu fais quoi, SAS? Pourquoi? Il y a un copain qui m'a dit que c'était sympa.
On m'a dit que c'était génial, c'était la meilleure fois.
Jacques qui en parle.
Parce que il y a marqué société par action simplifiée. Et en fait, toutes les startups sont sous SAS. Mais les startups, elles sont sous une forme SAS parce qu'il y a un intérêt d'un point de vue juridique dans les statuts, le pacte d'associés.
C'est vrai que SARL, ça fait plus BTP finalement.
On pourrait, à s'y méprendre, penser que SARL, ça fait plus BTP. Et effectivement, c'est beaucoup plus classe et beaucoup plus, on va dire... prestigieux d'être en SAS plutôt, ou en tout cas en SASU. Si
c'est
on
pour ça, c'est parce que ça fait plus BTP qui se mettent en SAS.
C'est parce que ça fait plus prestigieux d'être en SASU qu'être en URL. C'est la fausse croyance qu'ont énormément d'indépendants.
Qu'est-ce qui fait que ça semble plus prestigieux?
Parce qu'encore une fois, toutes les startups se sont lancées en SAS, mais se lancent en SAS parce qu'il y a une réalité juridique derrière. Parce que c'est une forme sociale qui a été importée des États-Unis et c'est toujours bien.
Donc c'est irrationnel.
C'est complètement irrationnel. Okay. C'est tellement irrationnel que choisir ce statut-là au lieu de statut de EURL ou de SARL qui soi-disant fait plus BTP, en fait, permet de faire gagner beaucoup plus d'argent en optimisant le statut social du dirigeant. C'est-à-dire que la différence entre un gérant, parce que quand on est dans une URL, on est un gérant, et quand on est dans une SAS, on est un président. C'est toujours mieux d'être président que gérant. Alors que d'un point de vue purement patrimonial, c'est tout de suite beaucoup plus intéressant de prendre une rémunération en tant que gérant qu'en tant que président. Et c'est l'erreur qu'on voit très souvent, foncer tête baissée sur la CESU, et encore plus sur les CESU à l'IR. Voilà.
Est-ce qu'il y a des comptables qui ont des discours différents ou est-ce que tous les comptables sont alignés avec ce discours ?
Je pense que, que chacun a son discours et on pourra trouver tout et son contraire. Mais en réalité, il faut surtout trouver un expert comptable qui va comprendre ton profil, ta situation et tes besoins.
Comment savoir si un comptable est fait pour nous ?
C'est complexe de trouver les chaussures à son pied. Et on le voit, les entrepreneurs changent très souvent d'expert comptable au cours de leur vie. C'est rare d'avoir un entrepreneur qui reste fidèle à son expert comptable durant toute sa carrière. Et en réalité, il faut simplement essayer jusqu'à se trouver celui qui nous correspond. Typiquement, nous, on accompagne majoritairement les jeunes entrepreneurs. Donc énormément de boîtes tech, d'e-commerce, de SaaS. Et on va être très performant sur ces sujets. Mais à l'inverse, pour des restaurateurs, on sera beaucoup moins. Il y a des experts comptables qui le seront beaucoup plus. Donc il faut simplement faire attention à la spécialité de chacun et éviter de prendre des experts qui seraient potentiellement trop généralistes. Parce qu'à vouloir être bon partout, très souvent on est mauvais dans ce qu'on fait.
Ouais, il faut être spécialisé dans un domaine en particulier. Karine ?
Ce qui est important, c'est de séparer sa vie pro de sa vie perso. Quand on démarre, c'est vraiment important de bien avoir ces deux idées en tête, de bien séparer la vie pro de la vie perso.
Oui, puis en fait, c'est une hygiène de gestion, quoi. Est-ce que tu as des clients, Didier, qui viennent et qui sont vachement étonnés, en fait, et qui sont un peu sous le choc parce qu'ils étaient vraiment convaincus qu'ils étaient réglo à tous les niveaux, quoi.
Oui, en fait, ils sont tous choqués, ils ont tous un sentiment d'injustice, en fait, lorsqu'ils se font contrôler, parce que parfois, même lorsqu'ils ont bien voulu faire les choses, en fait, lorsque le fisc vient pour fouiller, en fait, ils trouvent forcément un petit truc qui n'allait pas, et ce petit truc qui n'allait pas, ça peut finir
jamais parfait, quoi.
Voilà, c'est une comptabilité peut-être parfaite, mais vu que le droit fiscal est un droit qui, par essence, est interprétable, en fait, on pourra toujours trouver quelqu'un qui va vous dire « Ah oui, mais là, sur ce point-là, je suis pas d'accord avec vous. » Et donc, finir par se faire redresser et devoir pas mal d'argent.
Oui, il y a vraiment une part de subjectivité, quoi.
Il y a une part de subjectivité. Je peux te donner un exemple. J'ai une entreprise qui, elle avait besoin de souscrire un emprunt pour faire un investissement. Elle a dû passer par un intermédiaire qui lui a permis de rencontrer un banquier qui lui a donner un emprunt à un taux préférentiel. Mmh. Ok, donc l'emprunt, il est matérialisé qu'elle a eu cet emprunt à taux préférentiel. Maintenant, le fisc, lorsqu'il vient, il va dire « Oui, mais qu'est-ce qui me prouve que c'est grâce à cet intermédiaire que vous avez eu cet emprunt à taux préférentiel ?» Donc, pourquoi est-ce que cette charge-là de mise en relation, elle est vraiment déductible ? Vous aurez du mal à démontrer qu'effectivement, il m'a aidé parce qu'il n'a peut-être pas pris des notes de rendez-vous, il ne s'est peut-être pas pris en photo lorsqu'il était avec vous chez le banquier en train de négocier. Donc en fait, il y a des choses qui parfois, vous les avez faites de bonne foi et en fait, malgré tout, vous ne pouvez pas démontrer que c'était vraiment dans l'intérêt de la société. Donc du coup, ce n'est pas une charge déductible.
Pour avoir beaucoup de clients qui ont eu des contrôles, ce n'est pas une grande majorité, donc c'est important, mais j'ai accompagné beaucoup de contrôles fiscaux. Souvent, là où ils se font redresser, en tout cas, encore une fois, c'est sur les utilisations pro perso. Mmh. Et un des trucs qui est souvent mis en avant par l'administration fiscale, mais aussi également par les URSSAF, c'est tout ce qui est lié autour du véhicule. Très souvent, il y a des erreurs, des micmacs qui sont faits autour du véhicule. Ils achètent un véhicule sur la boîte, mais ils l'utilisent à titre perso. Ils ne déclarent pas ce qu'il faut exactement directement dessus. Et donc là, souvent, c'est des contrôles qui sont assez faciles, en fait, pour l'administration fiscale. Donc, pareil, il y a un peu des alertes un peu partout qui est sur, OK, quand tu achètes un véhicule sur ta boîte, attention, sur la manière dont tu vas l'acheter, tu vas le mettre en place. Même quand tu fais les indemnités kilométriques aussi également, c'est des choses aussi qui peuvent être assez facilement contrôlables par l'administration fiscale et par les URSSAF. Tout ce qui est lié au véhicule de fonction dans ta boîte, c'est un peu des zones rouges où il ne faut pas faire n'importe quoi. C'est facile, en tout cas, pour l'administration, après un cas de contrôle, de démontrer qu'il y avait des utilisations personnelles ou que ce n'était pas du tout justifié pour la nature de l'activité. Quand tu as deux 4x4 et deux scooters sur ta boîte alors que tu es tout seul et que tu bosses de Paris en télétravail, on se doute que...
Un peu étrange.
Un peu compliqué à justifier, quoi.
Thomas, les véhicules de fonction aussi ?
Les véhicules de fonction, c'est un vrai sujet. Et typiquement, il y a des entrepreneurs. En fait, concrètement, on va avoir deux possibilités. Soit détenir le véhicule à titre personnel et refacturer des indemnités kilométriques à la société. Soit à l'inverse, mettre le véhicule sur la société et l'utiliser parfois à titre personnel. Mais lorsque les entrepreneurs l'utilisent en perso, ils oublient souvent de le déclarer. Et c'est considéré comme un avantage en nature. Et lorsque l'URSSAF s'en rend compte, généralement, c'est une erreur qui coûte assez vite un petit billet, voire même un gros billet parfois.
Et tu me disais aussi, il faut faire attention au compte courant d'associé. C'est quoi le compte courant d'associé ?
Le compte courant d'associé, en fait, ce sont des sommes qui vont être inscrites en comptabilité, qui vont matérialiser le fait que l'entreprise doit de l'argent à l'entrepreneur. L'administration fiscale, lorsqu'elle va venir faire son contrôle, elle va vérifier ça. Elle va voir si un compte courant d'associé est créditeur. Donc, il est inscrit que l'entreprise doit 10 000 euros à son entrepreneur. Elle va vérifier D'où est-ce que ça vient? À quel moment est-ce que l'entrepreneur a avancé 10 000 euros pour le compte de la société pour qu'elle lui doive cet argent? Et parfois, ça peut être des choses un peu abstraites ou des sommes qui ont été inscrites en comptabilité, en compte courant d'associé, alors qu'elles n'auraient pas dû. Et là, c'est distribution, enfin revenus distribués, pareil, prélèvements sociaux, impôts sur le revenu, pénalités, etc.
Ce qu'on peut dire pour conclure cet épisode, c'est qu'il faut être rigoureux. Et que quand on est vraiment rigoureux et qu'on ne mélange pas le pro et le perso, généralement ça se passe quand même bien, histoire de rassurer ceux qui nous écoutent quand même pour terminer cet épisode sur la comptabilité, la gestion et la fiscalité.
Clairement, et ce qu'il faut comprendre aussi, c'est qu'il n'y a pas de solution miracle pour ne payer aucun impôt en France. Contrairement à ce qu'on pourrait voir sur les réseaux aujourd'hui, il y a des personnes qui vont vous vendre du rêve en créant une société à l'étranger pour ne plus payer d'impôt en France. Comme le disait Didier, malheureusement, c'est souvent trop beau pour être vrai. Et le jour où l'administration penche son nez là-dedans, ça coûte vite très cher à l'entrepreneur. Donc on est en France, on doit payer des impôts et il faut être rigoureux dans sa gestion pour éviter d'avoir des pénalités et des soucis.
Et être accompagné, Didier.
Mais juste aussi, oui, il faut être rigoureux, mais attention, c'est pas parce que vous êtes rigoureux et de bonne foi que vous allez pouvoir aller en contrôle fiscal en vous disant c'est bon, il va rien se passer, tout va bien se passer. Mieux vaut vous faire accompagner dans le cadre du contrôle fiscal, que ce soit par votre expert comptable ou alors par un avocat fiscaliste, parce que dans tous les cas, l'inspecteur des impôts, s'il cherche vraiment quelque chose pour vous redresser, il va trouver quelque chose en fait. Et dans les informations que vous avez données dans le cadre du contrôle, parfois de bonne foi, en vous disant j'ai dit ça, mais en fait ça sera utilisé contre vous. Donc quand vous recevez le document qui vous dit que vous allez être contrôlé, l'avis de vérification de comptabilité.
Et on vous le souhaite pas.
On vous le souhaite pas. Ça peut arriver, ça arrive très souvent, mais on vous le souhaite pas. Mais quand même, ne le prenez pas à la légère et ne vous dites pas que parce que vous avez tout bien fait jusqu'ici, il ne va rien se passer.
Karine.
La facturation électronique va quand même beaucoup aider, je pense. Les tout petits pros qui aujourd'hui géraient un peu comme ça la comptabilité, le chiffre d'affaires, le plafond quand les micro-entrepreneurs doivent facturer le chiffre d'affaires. Ça va beaucoup les aider à être beaucoup plus rigoureux. Donc c'est une contrainte à la base, c'est vrai, parce que nouvel outil, il faut s'habituer, on n'aime pas les changements. Et là, effectivement, il faut s'habituer à la facturation électronique, mais ça va nous faire tous collectivement gagner beaucoup de temps.
Et tout va bien se passer.
Oui, mais est-ce que ça n'aura pas un coût de mise en place pour le petit entrepreneur, l'auto-entrepreneur qui démarre son activité?
À partir du moment où il a normalement une banque ou une entreprise de gestion, ça peut être un logiciel de gestion, normalement, il sera plugué avec une plateforme agréée. D'accord. En tout cas, les banques, aujourd'hui, le proposent
et
directement.
Et c'est pas très cher. Chez Hello Bank, c'est combien?
C'est inclus dans
c'est
le forfait.
Aujourd'hui, on a quand même la chance d'avoir... Alors, il faut faire attention à l'IA et à tous les outils directement, mais se former aussi sur le sujet, prendre connaissance. Souvent, les indépendants ont tendance à se dire, OK, ils ont un manque de formation dans l'éducation financière, mais aussi sur toute la réglementation fiscale, juridique, comptable, et ont tendance à se dire « Ok, soit je m'en occupe pas, soit je le délègue et je ne suis pas concerné par le sujet. » À minima, voilà, ça va quand même assez vite aujourd'hui de se renseigner, de comprendre un peu comment ça marche et ne foncez pas tête baissée ou ne vous mettez pas des œillères sur le sujet. Voilà, personne n'est l'administratif et la fiscalité en France. On est d'accord, tous les deux, on est tout à fait d'accord. Mais donc, voilà, concernez-vous.
Mais c'est vrai qu'on s'en détourne, en fait, quand on est entrepreneur, parce qu'en fait, notre priorité, elle n'est pas là, entre guillemets.
Elle n'est pas là, mais...
On préfère être focus sur autre chose, et quand ça nous tombe dessus...
Surtout de ce qu'on voit, nous, des retours des entrepreneurs, c'est qu'il y a une vraie phobie fiscale et administrative, et c'est pour ça que les entrepreneurs essayent de le délaisser le plus possible. Mais souvent, le délaisser, ce n'est pas la meilleure stratégie, parce que ça coûte vite cher, quand on apprend qu'on a fait des erreurs.
Il faut le déléguer aux bonnes personnes.
Vérifier les sources, parce que si on va sur Internet pour regarder un influenceur qui vous dit n'importe quoi, il faut faire attention. Ouais. Donc bien vérifier ses sources.
C'est carré, c'est compliqué, et il vaut mieux être bien accompagné. Exactement. Et bien équipé.
Et ChatGPT n'est pas une source en matière de fiscalité, mais pas du tout. J'ai des clients qui viennent me voir parfois en consultation, qui ont été conseillés par l'IA, par ChatGPT, et qui me disent que si maître, on peut faire telle chose, c'est possible, parce que... Et en fait, non, moi quand je vérifie, je me rends compte que non. J'en ai eu un qui pensait qu'il pouvait opter pour un régime d'imposition particulier, alors qu'il ne l'avait pas fait au début, lors de la création de son entreprise. En fait, c'est trop tard. Alors que l'IA lui a dit que si, bien sûr, il pouvait.
Donc ChatGPT, ça peut vraiment être un piège quand on parle fiscalité?
ChatGPT, c'est une IA qui, de toute façon, dans sa façon de fonctionner, va plus pour valider ce qui est dit par la personne qui l'interroge. Donc oui, c'est clairement le plus gros piège qu'il puisse y avoir.
Un dernier mot?
Surtout, ne pas croire aux promesses des personnes qui vont vous vendre sur les réseaux sociaux, par exemple, du 0% d'impôt en France. Parce que malheureusement, c'est très clairement impossible. Et si ça l'était, en tout cas, je serais l'un des premiers certainement à en bénéficier, je pense.
Karine?
La facturation électronique, tout va bien se passer.
Ça, c'est un dernier mot. Didier?
N'ayez pas peur du contrôle fiscal, mais s'il arrive, défendez-vous quand même parce que ça peut faire mal.
Et Jonathan ?
Soyez correctement accompagné dans toute votre gestion comptable et fiscale, c'est important.
Merci à tous les quatre. C'était un plaisir de vous accueillir pour parler gestion, comptabilité et fiscalité. J'espère qu'on vous aura donné des conseils utiles et applicables. Et je vous rappelle qu'on se retrouve un jeudi sur deux avec un nouvel épisode du podcast des indépendants sur BFM Business. Évidemment, à bientôt.
C'était le podcast des indépendants sur BFM Business. Retrouvez Ludovic Badeau et ses invités un mercredi sur deux. Pensez à noter l'épisode si vous avez aimé l'écouter.